VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 11h à Bamako. Bonjour à tous. Trois soldats français ont été tués au Mali par l'explosion hier d'une mine au passage de leur véhicule blindé. Selon un communiqué publié mercredi par la présidence française, l'explosion est survenue lors d'une opération de la force française Barkhane à l'approche de la ville de Tessalit au nord du Mali. Selon le ministère de la Défense, les victimes se trouvaient à bord de l'engin de tête de convoi d'une soixantaine de véhicules qui a touché une mine et explosé. Une douzaine d'insurgés islamistes Shebab ont été tués en Somalie par des frappes de drones menées par les États-Unis, a annoncé le Pentagone mardi. Les frappes ont été menées lundi et mardi contre des cibles Shebab qui posaient une menace imminente aux forces américaines et somaliennes, a précisé un porte-parole du Pentagone, Jeff Davis. Au Soudan du Sud, la rébellion et le gouvernement font un pas de géant dans la mise en application de l'accord de paix d'août 2015. Alfred Ladugor, numéro 2 des rebelles, est rentré à Juba. La formation du nouveau gouvernement est prévue la semaine prochaine après l'arrivée du chef rebelle Riek Machar, Eric Manirakiza.
La mise en application de cet accord tant attendu avait été maintes fois retardée. L'arrivée annoncée de Riek Machar dans moins d'une semaine à Juba serait un symbole important pour enterrer définitivement la hache de guerre. Le numéro 2 de la rébellion, Alfred Ladugor, est arrivé mardi à Juba avec une délégation d'environ 60 personnes, un acte réaffirmant que la paix ne sera pas remise en question, a-t-il déclaré. Le gouvernement sud-soudanais s'est réjoui de cette avancée qui marque la fin de la guerre, selon Akol Paul, un haut responsable dépêché pour accueillir la délégation rebelle. Pour cimenter l'accord, il est prévu la formation d'un gouvernement de transition par le président Salva Kiir et son rival Riek Machar, nommé vice-président du Soudan du Sud le 12 février, un poste qu'il occupait déjà aux côtés de M. Kiir avant le déclenchement du conflit en décembre 2013. Toujours dans la mise en application de l'accord, un total de 1370 soldats et policiers rebelles sont déjà rentrés à Juba pour garantir la sécurité de leur chef. Mais malgré ce rapprochement entre les deux belligérants, les relations restaient fragiles entre les rebelles et l'armée qui s'accusent mutuellement de violer l'accord. Sur ce, Washington a appelé toutes les parties à respecter leurs engagements.
Et toujours au Soudan du Sud, deux employés d'une ONG ont été abattus près de la ville de Yé dans une embuscade tendue par des hommes armés, a annoncé leur employeur aujourd'hui, ce qui porte à plus de 50 le nombre de travailleurs humanitaires tués dans le pays en plus de 2 ans de guerre civile. Les deux victimes de nationalité sud-soudanaise travaillaient pour le Danish Demining Group, l'unité de déminage de l'ONG Danish Refugee Council.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Boko Haram a de plus en plus recours aux enfants pour perpétrer des attaques suicides, notamment au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. C'est l'UNICEF qui l'affirme dans un rapport intitulé « Beyond Chibok », au-delà de Chibok. Un document publié près de 2 ans après l'enlèvement par le groupe islamiste nigérian de 276 lycéennes dans le nord-est du Nigeria. Voici l'éclairage de Laurent Duvillier. Il est chargé de communication régionale pour l'UNICEF.
Un des phénomènes que nous voyons et qui nous préoccupe, c'est l'augmentation du nombre d'attaques à la bombe et spécialement les attaques à la bombe qui impliquent les enfants. C'est en augmentation au Nigeria, c'était déjà le cas il y a un an, mais plus préoccupant encore au Cameroun, ce n'était pas le cas il y a un an. Et spécialement des enfants qui sont parfois très jeunes, qui ont parfois seulement 8 ou 10 ans et qui sont utilisés. Certains d'entre eux n'ont même pas connaissance de la gravité des actes qu'ils posent, mais ils sont instrumentalisés par les groupes armés, par Boko Haram, pour mener des actes terroristes contre leur communauté elle-même, contre leur famille elle-même. Et c'est ce qui est le plus horrible.
Laurent Duvillier de l'UNICEF. En République démocratique du Congo, la dynamique de l'opposition dit ne pas être concernée par les démarches menées par Edem Kodjo, facilitateur du dialogue avec le pouvoir. Dans une déclaration faite à Kinshasa, les acteurs de cette plateforme politique qui regroupe de nombreux partis politiques de l'opposition, parmi lesquels l'UNC de Vital Kamerhe et le MLC de Jean-Pierre Bemba, ont recusé l'acte de nomination du facilitateur et rappellent qu'ils ne prendront pas part au dialogue. Thatcher Lusamba est modérateur de la dynamique.
Notre déclaration est claire que nous ne participerons jamais au dialogue des
Kodjo avec M. Kabila. Deuxièmement, nous ne connaissons pas M. Kodjo comme facilitateur dans ce pays. Il y a deux choses. Ce que nous nous réclamons, c'est qu'on aille aux élections. Malgré les 8 mois qui restent, nous sommes prêts. Il y a des offres qui peuvent arriver pour 5 mois et on prépare les élections. Pour quelles raisons? C'est une crise initiée, provoquée pour la prolongation. Le peuple congolais n'accepteront pas. Ce n'est pas ce pays qu'on peut dire que nous manquons l'argent. Non, mon frère, nous avons l'argent, mais il n'y a pas la volonté. Et c'est la mauvaise foi du pouvoir en place pour que les élections n'aillent pas lieu.
Tacha Lusamba, opposante congolaise au micro de nos confrères de Top Congo FM. Venons-en maintenant au dossier de ce jour, élection présidentielle au Tchad. Les observateurs internationaux se félicitent de la bonne organisation de cette consultation électorale. Ils estiment que les irrégularités constatées par l'opposition démocratique ne sont pas de nature à remettre en cause le scrutin. La correspondance d'André Kodmajingar au N'Djamena.
En dépit des concertations politiques et de la grogne sociale due notamment à la dégradation des conditions de vie, la mission estime que l'élection présidentielle du 10 avril 2016 s'est déroulée dans un climat relativement plus consensuel que les scrutins précédents.
Diankunda Traoré est le chef de mission d'observation de l'Union africaine. Pour lui, la disparition et le bourrage des urnes dans certains bureaux de vote annoncés par l'opposition ne sont que des spéculations. Il invite les acteurs impliqués dans cette course à respecter la volonté du peuple exprimé à travers les urnes.
À notre niveau, nous n'avons pas constaté de bourrage d'urnes. Cette rumeur a beaucoup couru. Nous ne nous parlons que des choses qui sont avérées. La démocratie est un apprentissage, c'est un processus qui est long et qui n'est pas facile. Et un des impératifs de la démocratie, c'est vraiment d'accepter les choix des citoyens et des électeurs. On peut gagner, on peut perdre. Donc quand on perd, il faut l'accepter sportivement.
Toutefois, Diankunda Traoré invite la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à faire preuve de professionnalisme dans la compilation des résultats.
La mission exhorte la CENI à faire preuve d'encore plus de professionnalisme et de transparence, afin que les résultats provisoires qui seront rendus publics soient effectivement l'expression de la volonté des Tchadiennes et des Tchadiens. Elle exhorte les candidats à cette élection à faire preuve de patience dans l'attente des résultats et à maintenir le climat de paix et d'apaisement qui a prévalu jusque-là dans le pays. La mission invite les candidats à respecter le verdict des urnes et à utiliser les voies légales en cas de contestation des résultats.
Le chef des missions d'observatoire de l'Union africaine souligne par ailleurs que le retrait de la société civile de la CENI n'entame en rien la crédibilité de cette élection.
La présence des représentants de la société civile au sein de la CENI centrale et des démembrements était un gage de transparence et de crédibilité pour de nombreuses parties prenantes rencontrées par la mission. La suspension de la participation des représentants des organisations de la société civile aux travaux de la CENI en protestation contre la détention de certains de leurs membres n'a pas affecté outre mesure le fonctionnement de l'administration électorale.
Selon la mission conjointe d'observation du groupe international pour la promotion de la démocratie et du système électoral paix et développement, le premier tour de l'élection présidentielle du 10 avril dernier est libre et conforme à la Constitution et aux lois de la République du Tchad ainsi qu'aux standards internationaux et demande à la CENI de publier les résultats provisoires dans un délai requis. André Kodmajingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Oui, prétendants au poste de secrétaire général des Nations Unies ont commencé hier à comparaître devant l'Assemblée générale de l'ONU pour des entretiens d'embauche inédits avec l'espoir de succéder à Ban Ki-moon en 2017. L'Assemblée a exigé une lettre de candidature, un CV, une profession de foi et le grand oral devant les diplomates de 193 pays. Chaque candidat aura 2 heures pour convaincre et les auditions vont s'étaler sur 3 jours. Les Syriens étaient appelés ce mercredi aux urnes pour des élections législatives organisées par le régime, mais vilipendées par l'opposition. Les bureaux de vote ont ouvert dans les régions sous contrôle gouvernemental, soit un tiers du territoire où vit environ 60% de la population. Les résultats devraient être semblables à ceux des législatives de mai 2012, selon les experts. Le parti Baas, qui dirige le pays d'une main de fer depuis plus d'un demi-siècle, avait alors obtenu la majorité des sièges, même si plusieurs autres formations avaient été autorisées à y participer. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.